La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Christine Darboux et suis artiste sculpteur, ou plus précisément et particulièrement modeleuse de la terre. Amoureuse ou passionnée, peut-être amoureuse passionnée des arts ou de l'art avec un grand A, j'ai envie de partager, vous initier peut-être, en tout cas essayer de vous apporter une ouverture pour stimuler votre curiosité sur le monde artistique. Pour démarrer ce cycle, je vais d'abord voir avec vous ce qui se cache derrière le mot art et répondre à la question « qu'est-ce que l'art ?». Et pour que nous comprenions sa réalité et sa légitimité, je mettrai l'art en relation avec son environnement au cours du temps, en m'attachant peut-être plus particulièrement aux arts plastiques, mais en gardant une vision globale sur le monde de l'art et les rapports qu'entretiennent les différentes formes artistiques entre elles. Dans cet historique, j'aborderai le 19e siècle, qui est une période de grande transition sociale, et nous verrons comment l'art colle à son époque. Et enfin, nous arriverons au 20e siècle, où là, je vous présenterai des divers et nombreux mouvements artistiques qui ont marqué l'époque, notamment pour les arts plastiques. Le tout étant de vous faire comprendre les interactions entre art et société, dépendant des multiples transformations que le 20e siècle était en train de vivre. Nous arriverons au 21e siècle pour faire un tour général de l'art actuel, de sa raison d'être ou pas. Nous parlerons de la place des artistes, surtout plasticiens, de leur légitimité ou illégitimité dans la société, de leur rôle également et sous quel statut. Nous aborderons l'art en province, ce qui nous permettra de faire un petit tour en Périgord, voir ce qui s'y passe. J'ai aussi envie de faire quelques interviews d'artistes peintres ou plasticiens, mais peut-être aussi de musiciens ou littérateurs. Le but est de vous présenter des créateurs sincères et investis, talentueux et parfois des figures atypiques. J'aimerais vous présenter des artistes vivants, mais aussi des artistes décédés qui m'ont interpellée ou que j'ai rencontrés de leur vivant. J'aborderai aussi mon art, qui est la sculpture, et comment j'affronte les trois dimensions, ce qui m'anime pour créer, pour exposer, ce que je fais et comment je m'inscris ou me suis inscrite socialement pour faire vivre cet art. J'aimerais présenter quelques dossiers comme l'art brut, l'art thérapie ou des formes d'art d'aujourd'hui qui peuvent être le body art, le street art, le land art. Et également, j'aimerais proposer des thèmes peut-être un peu plus subjectifs. Mais tout ceci est à voir selon le déroulement des programmes. Bon, j'espère sincèrement que je réussirai à vous tenir éveillés et que je vous apporterai surtout une matière qui soit pour vous nourrissante et vous ouvre des perspectives. Mais bon, commençons par le commencement. Et nous verrons comment le fil va se dérouler pour vous permettre d'appréhender ce monde complexe qu'est le monde artistique. L'art est un terme très vaste qui englobe différentes matières, où il est plutôt question des arts au-delà de ce que l'Antiquité nous a proposé, où chaque art était nommé, où chaque art nommé était symbolisé par une muse, et vous savez qu'il y avait 9 arts. Qui étaient la poésie épique, la poésie lyrique, l'histoire, la musique, la danse, la tragédie, la comédie et l'art d'écrire la pantomime et l'astronomie. Ensuite, Hegel, qui est un philosophe du 19e siècle, dans son esthétique, a donné une autre classification en distinguant 6 arts qu'il a classés dans un ordre qui lui est propre. C'était l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse et la poésie. Le cinéma, quant à lui, a été rajouté au XXe siècle, début du XXe. Maintenant, à cette liste, se sont greffées d'autres formes d'art, qui sont la céramique, le dessin, la photo, la joaillerie, la gravure, la littérature. Mais c'est aussi les arts de la table pour la gastronomie ou l'art des jardins avec la nature. Nous pouvons dire que le XXe siècle a retenu 9 arts qui sont l'architecture, la sculpture, les arts visuels avec la peinture et le dessin, la musique, la littérature, les arts de la scène avec théâtre et mime, le cinéma, les arts médiatiques avec la radio, la télé, la photo et enfin la bande dessinée. Et bon, il est vrai que dans la définition classique du terme qui concerne les arts traditionnels comme la peinture ou la sculpture, ceci s'apparentait beaucoup à l'artisanat dans le sens où il fallait être détenteur de connaissances techniques et d'un savoir-faire pratique. C'est la raison pour laquelle le mot art s'est accolé à des matières plutôt scientifiques ou techniques, comme par exemple l'art de la médecine. Il existe d'ailleurs toujours cette école sur Paris nommée les arts et métiers qui forme techniciens et ingénieurs. En ce qui concerne la peinture, la sculpture, la céramique, de ces formes d'art au savoir traditionnel, la polémique perdure encore de nos jours pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est du domaine de l'artisanat? Qu'est-ce qui est du domaine de l'art? Le tronc commun, c'est de produire un objet qui nécessite des connaissances techniques et un savoir-faire pratique. La différence se situe plutôt dans la finalité, qui serait pour l'artisan la production d'un objet essentiellement utilitaire et pratique destiné à la reproduction, et pour l'artiste d'un objet qui exprime quelque chose en lien avec sa subjectivité, qu'il décide ou non de reproduire, comme c'est le cas pour les artistes sculpteurs lorsqu'ils reproduisent leur œuvre en 8 exemplaires numérotés de 1 à 8. Néanmoins, la frontière reste mince. Prenons l'exemple de quelqu'un qui crée et réalise une statue en céramique en utilisant les savoir-faire traditionnels. L'objet n'est pas utilitaire. Déjà, on est tenté de dire que c'est un artiste. De plus, l'objet est décoratif et s'il n'a que cette fonction, avons-nous vraiment affaire avec un artiste ? La question est d'autant plus intéressante que le subjectif attribué à l'artiste existe ici et c'est l'esthétique. Par contre, il faut savoir que le terme esthétique, c'est-à-dire la beauté, l'harmonie, est davantage réservé maintenant à l'artisan depuis que cette notion a été malmenée par le monde artistique au cours du XXe siècle, ce que nous verrons ultérieurement. L'autre exemple concerne le maniement du pinceau et de la peinture pour réaliser une fresque picturale imaginative par une personne dont la volonté est d'en faire une représentation esthétique et ou décorative. Bon, cette fresque est-elle réalisée par un artisan ou un artiste ? Probablement, le créateur sera considéré comme un artiste si l'œuvre, en plus de sa valeur esthétique, est capable d'exprimer un ressenti, un mouvement de l'âme né de l'intériorité du peintre. Dans ce cas, un public sensible sera en mesure de recevoir l'information. D'ailleurs, nous aborderons plus loin les relations entre œuvre, public et artiste. Alors ici, la capacité détenue par l'artiste d'exprimer quelque chose de son intériorité peut faire écho à la maxime de Paul Klee, qui est un peintre expressionniste du XXe siècle. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Vous voyez que la frontière est mince, même si j'ai fait de mon mieux pour vous aider à percevoir les nuances. Si la polémique perdure, c'est peut-être à cause de ces nuances et de l'emploi de savoir-faire traditionnel commun, mais aussi beaucoup au besoin qu'à notre époque de codifier, cataloguer, cadrer et donc aussi de contrôler. Ceci dit, l'artisan, à mon avis, possède bien souvent un savoir-faire beaucoup plus pointu et élaboré que l'artiste, dans le sens où il est l'héritier d'une tradition. Ce sont des générations avant lui qui lui ont transmis une méthode, un style, voire une expérience qu'il reproduit avec fidélité. Ce qui ne l'empêche pas d'être créateur lui-même en apportant sa touche personnelle jusqu'à imposer son propre style. L'artiste, lui, est plus libre. Et même s'il emprunte la technique et le savoir-faire de l'artisan, que ce soit pour le peintre ou par le maniement des couleurs des pinceaux ou des brosses, ou pour le sculpteur, l'utilisation des mêmes outils que l'artisan décorateur, l'artiste reste avant tout fidèle à une expression en phase avec son monde intérieur, avec sa volonté d'exprimer quelque chose de lui ou quelque chose d'invisible qu'il pressent en lui. Et la technique n'est là que pour soutenir la création et lui donner corps. ce qui n'empêche pas un artiste d'exceller dans le maniement de sa technique. Il n'y a pas d'incompatibilité. J'avais réfléchi sur le sujet à force de côtoyer le monde artistique et artisanal à la fois passé et présent, et je m'interrogeais sur la séduction du créateur qui, grâce à son travail, réussissait à faire naître en nous des émotions de l'ordre du plaisir, de l'enthousiasme, voire de l'amour. C'est une réflexion qui touche à l'excellence et à l'accomplissement. Ce qui veut dire que pour moi, un artisan accompli, c'est quelqu'un déjà qui sublime la matière. L'artiste accompli possède ce qu'on appelle une patte et sait révéler l'invisible, l'impalpable, la vérité qui se cache sous le voile des apparences. Et pour aller un peu plus loin vers des notions un peu plus spirituelles, et qui dit spirituel dit élévation à tout niveau, l'artisan devient artiste lorsque, ayant sublimé la matière, il nous révèle, au travers de la perfection d'un objet réalisé, ce qui est de l'ordre du subjectif. Et là, le subjectif, c'est la beauté. Et par extension, c'est l'amour qui est en cause. Ce qui me permet de dire que la perfection dans la réalisation, lorsqu'elle atteint le sublime, est capable de toucher ce qu'il y a de plus beau et de meilleur en nous. C'est donc une énergie positive et lumineuse qui est activée. Ou son revers, l'ombre, tout dépend de celui qui reçoit. Je dirais que ce que je viens de démontrer est en relation avec ce que disait Platon, le beau est l'amour rendu visible, et qui pour moi est une phrase merveilleuse, qui en plus illustre très bien ce que je viens de vous dire. Quant à l'artiste, derrière ce voile qui le sépare de ce qui est invisible, il recherche la vérité. Les vérités, ou du moins la sienne, ou une partie de la vérité. Et c'est souvent une quête qui le mène vers l'absolu. L'artiste accompli saura se donner les moyens de l'artisan pour réussir à dévoiler une vérité exprimée par l'image ou l'objet. Et selon mes théories toujours, s'agissant de l'art au sens noble du terme, de celui qui grandit et élève l'âme, autant celle de l'artiste que celle de l'artisan, mais aussi c'est un art qui va toucher et donc élever l'âme de celui ou celle qui regarde et dont la conscience va être interpellée, l'artiste accompli dévoile la vérité de l'amour. Et lorsque je vous dis cela, je pense à une anecdote. Je me souviens d'avoir reçu un véritable choc esthétique devant une vingtaine, trentaine de photos réalisées autour de la Pietà de Michel-Ange, cette fameuse Pietà qui est exposée au Vatican et que Michel-Ange avait réalisée lorsqu'il avait 25 ans. Et ces photos, je m'en souviens, étaient exposées dans une chapelle à Paris. Bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'une Pietà. C'est la mère du Christ tenant son fils mort dans ses bras après la crucifixion. Donc c'est une scène douloureuse avec une mère touchée au plus profond d'elle-même. Et cette Pietà était photographiée sous tous les plans et les photos étaient merveilleusement belles dans le sens où elle semblait parfaitement épouser le travail du sculpteur qu'elle mettait en valeur. On aurait dit que le photographe avait été complètement fasciné par cette œuvre. Et en lisant d'ailleurs par la suite un article le concernant, il s'est avéré que lui aussi avait ressenti, éprouvé ce choc esthétique qu'il communiquait à tout en amplifiant encore la grâce de la sculpture. Et ce qui en émanait n'était pas uniquement dû au travail remarquable de Michel-Ange, qui avec une infinie délicatesse, sur un matériau dur, avec des objets aussi rudes que des ciseaux de sculpteur, parvenait à faire apparaître la moindre veine, souligner la plus petite ombre, révéler la plus fine fragilité de la peau, mais surtout c'est ce qui émanait de cette Vierge introvertie, prostrée, enfermée dans une douleur où on pouvait lire toute la douceur maternelle, mais aussi toute l'acceptation du drame. À vrai dire, on ressentait l'âme de la Vierge. Quant au Christ, on ressentait que son âme avait quitté son corps. Et cette Pietà était là, avec son enfant dans les bras. Et pour moi, c'est une œuvre inspirée. C'est le fruit d'une grâce spirituelle inexplicable que le savoir-faire de l'artisan-artiste a su magnifier. Voilà ce qu'est pour moi un artiste accompli. Et je souligne quand même le fait que Michel-Ange n'avait que 25 ans quand il a réalisé cette sculpture. Donc vous voyez la précocité. Voici pour ce petit intermède philosophique à la Christine Darboux, née de mes cogitations et autour duquel vous pouvez réfléchir également si le cœur vous en dit, mais je vous invite aussi à aller au-devant des œuvres. Et pour illustrer mes paroles, je vous invite à écouter un morceau de musique tiré du Requiem de Fauré. Après ce joli intermède qui a su prolonger ce moment de grâce, revenons à notre programme. Il est vrai que suite à cette expérience vécue avec Michel-Ange et son photographe, je me suis posé la question de savoir ce qu'il en était maintenant, fin 20e, début du 21e siècle, face à certaines productions artistiques hors de prix, où se mêlent trivialité scatologique, sexe brut, chair sanguinolente, j'en passais des meilleurs. Le tout exposé comme des préciosités sans pareil au nez et à la barbe du tout venant, comme un reflet des catastrophes humaines qui font régulièrement la une de nos journaux. Bon, ceci dit, dans le sens général et classique du terme, l'art est une pratique destinée à la production d'œuvres dont le but serait d'exprimer quelque chose de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire qui aurait trait en effet à l'esthétique, à des valeurs d'ordre moral ou spirituel. Dans ce sens, et selon les lieux et les époques et au long des siècles, les productions artistiques ont illustré des croyances, ont donné corps à des mythes et des légendes, ont relaté par l'image, notamment grâce à la peinture, les événements de l'histoire, sont témoins de l'état des sociétés, ont servi de support à l'expression du pouvoir ou de la volonté de puissance des dominants, les rois, les empereurs, etc., que l'art servait à magnifier ou à distraire. L'artiste, le peintre, le musicien, sculpteur recevait les commandes. Il était l'employé des puissants au même titre que l'était un cuisinier ou un valet. Les peintres et les sculpteurs s'organisaient en corporation, en école. Ils apprenaient de leur maître un savoir-faire pour honorer les commandes de rois, de princes, d'aristocrates divers, puis de notables et de bourgeois. L'art pour la peinture et la sculpture était figuratif, ce qui veut dire qu'il représentait une forme que tout un chacun peut facilement reconnaître comme étant celle d'un objet quelconque, ou un homme, une femme, un paysage, etc. L'art figuratif perdure toujours actuellement, hein, même si les différents mouvements artistiques du 20e et du 19e et du 21e siècle ont cru pouvoir l'éradiquer, voire l'enterrer. Il revient en force, surtout sous le pinceau des peintres. Ceci dit, au fur et à mesure du temps et des révolutions sociales ou économiques, l'artiste, en règle générale, il s'affranchira du pouvoir qu'il emploie principalement. Entre-temps, les rois ont perdu leur tête, du moins en France. Les temps changent, les démocraties apparaissent. En même temps qu'il s'affranchit des dictats du pouvoir qui lui impose des sujets à peindre, l'artiste doit davantage se mettre à la recherche d'une clientèle assez intéressée pour lui acheter ses productions s'il ne veut faire que ça. Au cours du 19e siècle, qui vit l'avènement de la technique, les progrès et les changements extraordinaires que cela provoqua dans la vie des gens, ou en plus de la paysannerie, de nouvelles classes sociales s'affirmaient avec le capitalisme naissant, telle une bourgeoisie dominante affairiste, née des activités commerciales et de plus en plus préoccupée par l'argent et du pouvoir qu'il confère, et de l'autre une classe ouvrière besogneuse, au service de la dite bourgeoisie qui, sous prétexte de progrès, domina de plus en plus abusivement, créant des décalages de niveau de vie entre les deux classes avec injustice notoire. Et là, je vous invite à lire Marx et ses analyses. Je te rappelle que la France du 19e siècle se trouve insérée entre deux révolutions, celle de 1789 pour destituer l'ancien pouvoir en place et celle de 1848 en révolte contre les abus d'un nouveau pouvoir légitimé par l'argent. Le monde bouge, aussi en Europe. L'Amérique, de son côté, se construit en s'appuyant sur les bases du capitalisme qui sont aussi les nôtres et dont les conséquences se feront sentir au XXe siècle, à savoir à travers le consumérisme. Autant dire bon nombre de chamboulements politiques, économiques, sociaux et donc culturel. On voit les êtres humains de plus en plus mécanisés, au service d'un progrès qui s'évalue dans tous les domaines d'une manière linéaire. On ne peut que progresser, demain sera mieux qu'hier, les hommes meilleurs, plus intelligents, etc. etc. Ceci dit, au XXIe siècle, je constate que le progrès s'est universellement répandu comme il se doit au XXe, puisque aux progrès techniques et scientifiques extraordinaires qui vont dans un sens ascendant comme prévu, se sont associées toutes les exactions possibles constituées de guerres phénoménales, de catastrophes humaines provoquées par la domination du pouvoir et de l'argent. Ce que tous ceux qui sont nés au cours du XXe siècle n'ont pu que constater s'ils sont tant soit peu éveillés. Et je vous laisse matière à méditer sur la linéarité ascensionnelle de notre ou nos soi-disant progrès, si cette évocation vous parle. En attendant le XXe siècle, comment évoluer le monde de l'art au XIXe siècle et comment se situer l'artiste dans cet environnement? Et là, ce sera l'objet de notre prochaine émission. Et nous allons nous quitter en écoutant un petit peu de musique classique d'avant XIXe siècle. Et je vous propose le concerto numéro 1 de Mozart. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et en attendant, le plaisir de vous retrouver.
Thank you.